Salut à tous. Quand on parle d'OVNI et de mystère, on pense inévitablement aux États-Unis. Eh bien, c'est dommage. C'est une erreur, car côté soviétique, la chose a intéressé au plus haut point. La preuve avec François Garigeau. Salut François.
Bonjour Bob.
Ravi de t'accueillir une nouvelle fois. On se tutoie parce qu'on a sévi déjà pour des émissions incroyables qui cartonnent sur BTLV. On a fait les ovnis en Espagne, on a fait une très belle émission il y a un mois, Ninel Koulagina, qui marche très très bien. On est ravi de t'avoir aujourd'hui pour évoquer ce dossier russe. Alors, tu es venu avec quelque chose, je le montre, parce que pour montrer que ce dossier Orion qu'on va évoqué aujourd'hui sur les ovnis, il est bien russe et tu as des pages et des pages de dossiers assez incroyables. Voilà, on part à partir de dossiers qui ont été secret défense, que tu as réussi à te procurer et qui vont nous permettre d'en savoir plus sur ce dossier Orion. C'est finalement le dossier Orion, si je schématise, c'est la recherche extraterrestre de la part du KGB, c'est ça?
Oui, donc... on va partir d'Andropov. Andropov, qui était le président du KGB à une certaine époque.
Sacré monsieur.
Un sacré monsieur. Bon, c'est pas quelqu'un qui était tendre. Hein. La période d'Andropov est considérée comme une des périodes les plus rigoureuses, les plus dures par rapport aux dissidents. Il a fait vraiment emprisonner pas mal de dissidents, donc c'était pas un tendre. Et encore moins quelqu'un qui était perché sur des sphères un peu loufoques. Hein. Donc on va dire que c'était quelqu'un d'assez cartésien. Et il a exigé du KGB en 83 qu'on lui fasse une synthèse des recherches qui avaient été faites par le KGB au sujet de l'existence potentielle d'anciens astronautes et d'OVNI. Alors pourquoi? Eh bien parce que, bon, pourquoi en 83, on ne sait pas trop. Par contre, on sait pourquoi Andropov est venu se greffer sur ce sujet. C'est parce qu'en 77, il y avait des officiers du KGB qui étaient en train de pêcher aux alentours de la zone 51 russe, Astrakhan.
Qu'on a évoqué déjà.
Qu'on a évoqué. Et au cours de cette pêche à la ligne, ils ont été en contact avec un supposé OVNI qui émettait un rayon vert. L'un d'eux a été touché par le rayon, s'est retrouvé malade à l'hôpital. Ils en ont fait un dossier, l'ont fait remonter à Andropov.
Ah oui.
Et le dossier, il l'a gardé pendant une dizaine d'années dans son bureau.
Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'officiel russe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas monsieur, madame tout le monde.
On parle de monsieur, pas monsieur tout le monde. Donc, c'est des agents du KGB. C'est la guerre froide, on ne prend pas du tout ça à la légère. Et le deuxième fait qui a amené Andropov à s'intéresser aux ovnis, c'est que toujours au début des années 80, un ovni a traversé Moscou et a entraîné la paralysie d'un des grands aéroports. Il y a 4 ou 5 aéroports à Moscou. Et a complètement été paralysé par la venue de cet ovni qu'a vu Andropov.
C'est-à-dire qu'Andropov
l'a vu de ses yeux. Donc il s'est dit, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un avion espion, je veux savoir. Et bon, ça s'est décanté en 83, donc en 83, il a dépêché carrément des agents chargés de chercher dans ses archives ce qu'il pouvait y avoir en relation avec tout ce qui était OVNI, et surtout anciens astronautes.
Mais Andropov meurt rapidement après le début de cette enquête.
Le dossier est initié le 5 mai 83, il finit le 11 novembre, et Andropov était malade des reins, il va décéder le 9 février.
D'accord. 84
84.
D'accord. Donc un an après, quoi, à peu près. Donc, voilà, c'est ça.
Quand il va avoir le dossier fin
un
novembre.
Un an et demi après, quoi, c'est ça.
Fin novembre, le dossier est sur son bureau, et lui, décembre, janvier, il y a deux mois après.
D'accord.
Deux mois après, il est mort.
Ça veut dire que lui, il n'aura pas eu le fin mot de l'histoire
Il n'aura pas eu le fin mot de l'histoire. Alors c'est un dossier, on va le résumer quand même, qui est sur quatre documents comme ça.
D'accord.
Qui font
bien épais, hein, c'est-à-dire que voilà.
Bien
on
épais,
les voit,
qui font plusieurs centaines de pages.
Ouais.
Le numéro 2 est introuvable. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
D'accord.
Donc théoriquement, il devrait être dans les archives, on ne le trouve pas. Alors celui-ci sur lequel on a travaillé, c'est le numéro 3. Seconde version du numéro 3. Le premier et le quatrième sont des condensés de recherches archéologiques concernant l'existence des anciens astronautes.
D'accord.
Alors, le dossier numéro 1 sur l'Amérique du Sud, le Pérou, l'Asie, le Japon, l'Europe, le Brésil.
D'accord.
Et le quatrième, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Éthiopie, l'île de Pâques. Bon, je résume, mais bon, ils sont quand même à y chercher.
D'accord.
La version de l'archéologie qui a été vecteur de d'initiation extraterrestre, c'est-à-dire que les pyramides sont d'origine extraterrestre.
Voilà, c'est genre l'intra-terre,
l'intra-terre,
etc.
Donc à la fin du projet Orion, ils sont même allés récupérer les dossiers allemands qui parlaient de la Terre creuse, de l'Antarctique,
De l'Amiral Byrd, etc.
De l'Amiral Byrd avec l'expédition, etc. Donc ils ont vraiment pris sur les quatre dossiers tous les paramètres qui leur permettaient d'étudier ce qui avait été déjà dit auparavant, mais qu'eux ne connaissaient pas dans le détail.
Voilà, donc tout ce qui fait un peu l'objet de recherche, et notamment par Patrice Pouillard, par exemple, dans les anciennes civilisations, ils sont allés la rechercher aussi.
Ils sont allés les rechercher. Bon, on est quand même en 83, c'est-à-dire que depuis, on a quand même évolué, tandis qu'à l'époque, disposaient quand même de moins d'informations. Sur le dossier numéro 2, il parle de cosmologie, d'astronomie, des anciens astronautes, de l'Atlantide, de l'Hyperborée, d'interprétation archéologique tibétaine, des expéditions allemandes, bien sûr, dans les années 30 au Tibet, de l'existence, on va en parler tout à l'heure, d'anciens artefacts et de soucoupes volantes qui auraient, dont la formation a été donnée par les Tibétains. Bon, c'est étrange, mais bon, ça figure dans le dossier. Et ils vont nous parler d'anciennes civilisations supposées être intervenues sur Terre, c'est-à-dire des ancêtres stellaires qui ont été pris pour des dieux. Ensuite, les Hyperboréens, les Lémuriens, les Vénusiens et les Atlantes.
Ah oui, donc vraiment tous les sujets qu'on aborde sur BTLV.
Tous les sujets qui sont traités par BTLV, on peut dire que là, ils sont allés crûment mettre leur nez à l'intérieur.
Ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont des recherches officielles. C'est-à-dire qu'en fait,
des recherches officielles, là, ce sont des agents du KGB, c'est comme on disait, la DGSE enquête, on donne un budget, on mandate les gens, on vous dit, la durée n'était pas longue quand même, on leur a donné 3 mois en disant, débrouillez-vous pour trouver ce que vous avez. Donc on sentait bien qu'ils n'avaient pas d'argent pour aller chercher ailleurs ce qui devait figurer dans le dossier, mais ils devaient chercher dans leurs archives à eux.
Alors, quand on parle de ces anciennes civilisations, on pense inévitablement à Zakaria Sitchin, qui lui était d'origine russe aussi.
Alors, effectivement, dans le dossier Orion, ils vont aborder la partie pré-babylonienne de l'humanité, dont parle Zakaria Sitchin, le fameux écrivain, les civilisations évoluées qui remonteraient à 40 000 ans avant Jésus-Christ. La traduction de tablettes cunéiformes de l'époque pré-babylonienne à l'époque de la préhistoire. Ils sont allés dénicher des informations. Ils n'avaient pas tout. Ils sont quand même allés s'intéresser à ce sujet qui a été mis au grand jour par Zakaria. Et je pense qu'il faut quand même souligner un artefact qui a été trouvé sous une couche d'argile de 5 mètres dans les fouilles en 1973. Dans la ville de Toprakale, qui était connue dans l'Antiquité sous le nom de Touchpa. L'objet remonte comme à 3000 ans avant Jésus-Christ. Il mesure 23 cm de long pour 9 de large. Et dans la culture Uratu, qui vivait dans les montagnes de l'Ararat, du mont Ararat, donc c'est les monts de l'Arche de Noé. Il connaissait déjà l'existence de cet artefact qui est une représentation.
Ouais, c'est ce qu'on a vu là à l'écran.
D'un cosmonaute sur une fusée, pardon.
Alors peut-être que vous écoutez cette émission en podcast dans la voiture, c'est le matin, vous venez de vous lever, vous vous dites tiens, je vais au travail, je regarde. Enfin, j'écoute l'émission avec François Garigeau, mais si vous avez l'occasion de la regarder également, parce qu'il y a beaucoup de documents et de photos qui sont à votre disposition. C'est vrai que là sur la représentation, on va peut-être la revoir. On a la sensation que c'est un vaisseau spatial et quelqu'un qui est à l'intérieur.
C'est la représentation qu'on a. C'est une tablette d'argile qui est datée de 3000 ans avant Jésus-Christ.
Donc, c'est un peu. C'est toujours étonnant parce qu'on se dit, on peut avoir beaucoup d'imagination, mais on peut pas. On a rarement l'imagination de quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu vois, je veux dire, on peut améliorer quelque chose que l'on connaît déjà en termes d'imagination, mais créer quelque chose de toute pièce, là.
Qu'on n'a pas vu.
C'est bizarre.
Bizarre. C'est quand même bizarre. Donc les Russes s'intéressent à ça. Bon, ils connaissent l'existence de l'artefact. Bon, Zakaria aussi, puisqu'il est d'origine russe. Donc ses travaux étaient connus. Et donc tout ça, ils vont le faire ressortir dans leur dossier en disant il faut qu'on s'intéresse à l'existence potentielle d'anciens astronautes au sein de civilisations précolombiennes et pré-chrétiennes, antichrétiennes.
Alors dans ce dossier Orion, il y a un personnage, je sais, qui va avoir son importance. C'est un membre du MUFON, le MUFON russe en fait.
Alors nous avons un membre du MUFON russe qui a essayé de mettre sur le devant de la scène le dossier. Donc c'est Nikolai Subotin, qui est le représentant du MUFON à Moscou. Il a fait quelques émissions en Russie sur le thème d'Orion, une ou deux, mais ça n'a pas trop accroché. C'est-à-dire que le domaine ufologique en Russie, on le retrouve bien dans les livres, mais il passe mal à la télévision.
Ah, c'est marrant ça. Ouais. D'accord, ils sont pas friands de ce genre de programme.
À la télévision, moins que, par exemple, les batailles de médium.
Oui, c'est ça, parce que la parapsychologie voilà. a sa place.
Donc, le mystère, oui. Actuellement, il y a une émission qui cartonne, c'est les exorcismes en direct.
D'accord.
Voilà. Et donc, ça cartonne, ça balaye tout. Et par contre, le sujet ufologique, ils en parlent.
D'accord.
Mais bon, c'est pas encore. Par contre, les livres se vendent bien.
Voilà, ils laissent ça à l'édition,
c'est
ou à la presse.
C'est la littérature.
Alors, il y a un général aussi qui va avoir sa place.
Le général, c'est le général Leonid Grigorovitch Ivashov.
Mm-hmm. Il n'a pas l'air simple. Hein.
Alors, il n'a pas l'air simple, Ivashov. Alors, il est quand même représentant du comité des anciens combattants, etc. Donc, ouais. Lui aussi, il n'est pas général pour rien. Mm-hmm. Lui, il va carrément exploiter le dossier Orion. Pour écrire un livre, donc l'ouvrage s'appelle Le Monde renversé. Pourquoi Le Monde renversé? Parce que lui, dans tous les ouvrages, les quatre ouvrages d'Orion, mmh. Le seul qui l'a vraiment intéressé, bon, c'est un général qui a souffert aussi de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, etc. Lui, ce qui l'a intéressé et sur lequel il a développé son ouvrage, c'est la Terre creuse. Mmh. Et l'Antarctique avec l'amiral Byrd, etc. Ouais. Donc il parle un petit peu au début de son ouvrage des anciens astronautes de l'Hyperborée, des Lémuriens, etc. Il donne des dates.
D'accord.
Mais bon, c'est des dates qui ne veulent rien dire. Ce sont des dates supposées qu'il imagine. Et ensuite, il va déballer tout son sac sur l'existence de la Terre creuse. Mmh.
Voilà. D'accord.
Et lui, par contre, il a fait des émissions là-dessus. Et elles ont eu beaucoup d'audience parce que tout ce qui a trait à l'Allemagne et à la Seconde Guerre mondiale est très prisé en Russie.
D'accord. Donc on voit que quand même beaucoup, beaucoup de gens se sont intéressés à ce sujet et beaucoup ont collaboré hein, finalement à la recherche de cette information.
Alors, cette information, l'information en tant qu'existence potentielle des anciens astronautes est très prisée. Parce que les Russes ont toujours recherché une origine slave propre, c'est-à-dire nos ancêtres, qui étaient-ils, d'où venaient-ils, etc. Et ils ont vraiment voulu retrouver des racines propres qui leur étaient à eux typiquement slaves. Ils ne voulaient pas descendre du bassin méditerranéen. Donc d'où l'intérêt de rechercher des civilisations qui auraient pu créer sur Terre.
C'est un peu presque nazi comme comportement.
C'est le même principe que les Allemands.
Voilà, c'est-à-dire
les Allemands c'était Thulé.
La race aryenne
voilà,
est là.
Pour les Allemands c'était Thulé. Et puis voilà. Pour les Russes, bah, c'est l'hyperboré.
Ouais,
donc on ne descend pas du même œuf que vous. Nous, on a notre œuf à nous.
Mais c'est ça. Ouais.
Avec nos pyramides.
L'œuf propre, en fait.
Voilà, on a notre œuf propre à nous. Ouais. Et on a nos pyramides. On verra, effectivement, ils ont des pyramides en Laponie. Donc, ils ont trouvé des pyramides. Donc, c'est intéressant. Donc, les Égyptiens ont les leurs. Les Russes ont les leurs. Tout le monde est content.
Ouais. Et on voit aussi dans ce dossier qu'il y a un concepteur de moteurs de fusée qui s'est intéressé aussi à tout cela et qui a dit dans ses mémoires, je crois, hein, si je ne m'abuse, qu'il aurait travaillé sur les soucoupes volantes, c'est ça?
Alors, il s'agit de Valentin Petrovitch Glushko. Oui. Alors, lui et Korolev, sont les deux grands initiateurs de fusées russes qui ont travaillé après la Seconde Guerre mondiale à la conception du programme spatial. Et lui, dans ses mémoires, il est allé plus loin, il a dit que il a travaillé sur un projet de soucoupe volante soviétique.
Ouais.
Alors, il ne dit pas si ça aboutit. Par contre, il dit c'est un succès technologique, ce sera une avancée pour l'Union soviétique extraordinaire, nous avons une avance sur les Américains.
Alors, ce qui est assez marrant, parce que quand même, tous les gens qui volent, qui font de l'aviation, te disent que quand même le truc rond,
ça marche pas.
C'est pas le truc qui est le plus facile à faire voler. Mmh. Et pourtant, beaucoup ont essayé de faire voler des soucoupes volantes.
Parce que une assiette peut difficilement voler. Bah, parce qu'il y a des contraintes, et plus elle va vite, et plus elle va bouger comme ça. Et donc ça...
Ou alors, il faut une autre technologie.
Une autre technologie que celle qu'on a. Donc on peut. Les Canadiens ont travaillé sur l'Avro.
Ouais.
L'Avro était une soucoupe volante typique qui devait. Bouger avec des propulseurs. Ils l'ont testé en soufflerie, sur un socle. Ouais. Sur le socle, ça marchait très très bien. Mais elle était posée sur un socle bien boulonné. Hein. Ouais. Donc là, on pouvait lui balancer tout l'air qu'on voulait, elle bougeait pas. Ensuite, ils ont coupé la soucoupe en deux, ils l'ont fixée à un mur. Mm-hmm. Là, pareil. La demi-soucoupe fixée à un mur, ça allait très bien. Par contre, quand ils ont essayé le prototype en vol...
ça a été une catastrophe.
C'était une catastrophe. Ça vole à 1,50 m du sol, sur 20 mètres de long, et après, il faut qu'elle se pose, ça va pas.
Alors, François Garigeau, on va évoquer un général, Ivashov, qui, lui, est allé... On va regarder une vidéo dans quelques instants à la télévision pour parler de ce dossier Orion, parce que ils remettent aussi en cause, ils veulent avoir des informations plus précises sur ce dossier, c'est ça?
Oui, donc Leonid Ivachov, lui, comme d'ailleurs le responsable du MUFON à Moscou, vont quand même enquêter sur la véracité du document. Mmh. C'est-à-dire, le document existe, est-ce qu'il est réellement issu du KGB? Est-ce qu'il est d'époque? Donc ils vont analyser les tampons, ils vont analyser l'encre, l'écriture, le papier. Voilà.
C'est-à-dire qu'en Russie, tout le monde se méfie de tout le monde, en fait, c'est ça?
Voilà, ça n'a pas changé, tout le monde se méfie de tout le monde, et à plus forte raison du KGB. Ouais. Voilà.
Alors on regarde justement ce Leonid Ivachov qui est à la télévision.
Дмитрий Федорович, обращаюсь. И говорю, Дмитрий Федорович, говорю, вот такая просьба поступила. Ну, а Дмитрий Федорович любил, чтобы свою позицию аргументированно высказать. Я говорю, я не возражаю. И вдруг он задает вопрос, а зачем это нужно? Я говорю, ну, знаете, вот...
История народу интересна.
Реально, говорю, будут видеть на этого, вот, череп этого подлеца. Вот его там подруги, и я думаю, это привлечет много.
Voilà, donc on sent que ça a l'air très très officiel, très encadré. Puis on a vu quand même tous les officiels à côté de Gorbatchev, etc. Donc voilà, tout le monde était là. Ça avait l'air très très sérieux, donc ils essaient d'en savoir plus. Il y a des doutes quand même sur la véracité de ce dossier?
Sur la véracité du dossier, non. Sur le dossier, non. Ils ont des doutes sur à quelle époque il a été fait.
D'accord.
Okay. C'est-à-dire, est-ce qu'il date réellement de 1983, de l'époque du KGB, ou est-ce qu'il est postérieur et il aurait pu être fait par le FSB pour nourrir éventuellement des fake news,
ouais, un certain fantasme, etc.
Un certain fantasme, on ne sait pas trop où le FSB aurait glissé, aurait dévié.
Dis-moi... Il y a quelque chose qui nous intéresse, puisqu'on a parlé de ces recherches archéologiques, notamment de ces recherches sur l'Atlantide, les Atlantes, et puis les pyramides également. On s'aperçoit qu'en Russie, il y a aussi des pyramides. On va voir quelques vidéos pendant qu'on va les commenter, on va peut-être les commenter en même temps, mais la première vidéo, elle nous montre clairement. Alors ça, c'est l'endroit où les pyramides devraient être.
C'est la Laponie, c'est au nord de la Russie. On voit que... les sites archéologiques correspondent exactement au positionnement des étoiles de la constellation d'Orion.
D'accord.
D'où le titre de le dossier Orion.
D'accord.
Et donc, dans les années 20, Barchenko, qui était un archéologue, va découvrir des sites archéologiques où ils ont retrouvé deux pyramides et des restes, des vestiges d'une ancienne civilisation que certains archéologues russes apparentent à l'Hyperborée.
D'accord. Alors, c'est quoi l'Hyperborée? C'est-à-dire qu'en fait,
l'Hyperborée, c'est une ancienne civilisation comme l'Atlantide.
D'accord.
Qui aurait vécu il y a plusieurs dizaines
de milliers d'années.
De milliers d'années avant Jésus-Christ.
Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que ce sont des réalisations. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un amoncellement de rochers.
Voilà,
c'est
ce
vraiment.
Sont des constructions. Ouais. C'est un petit peu dans le même style que.
Les pyramides de
Gizeh, les artefacts précolombiens. Donc, ce sont des blocs qui ont été sculptés, qui ont été assemblés de façon très précise.
Bah là, on voit une sacrée pyramide quand
même. Voilà, qui fait quand même 50 mètres.
Hein. De haut?
Bah oui.
D'accord, donc voilà. Alors, c'est pas Gizeh, hein, mais c'est plutôt
Khéops. C'est pas Gizeh, mais bon, on voit qu'elle est orientée aussi, elle a les mêmes orientations que les pyramides égyptiennes. Donc, c'est intéressant.
D'accord. Donc là, on voit que c'est exactement construit de la même façon. C'est-à-dire qu'on est, on est en escalier. Alors, par contre, on ne sait pas s'il y avait un parement comme...
S'il y avait un parement. Les photos ont été prises en hiver parce qu'en été c'est recouvert de végétation et beaucoup de pierres ont été utilisées pour la construction. Les habitants locaux s'en sont servis pour construire les habitations.
Et en fait, ils ont dépouillé les pyramides pour construire
les pyramides. C'est ce qui est un peu normal, hein, c'est les gens pauvres.
Et tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que les archéologues se mobilisent pas pour savoir un petit peu ce qui se passe.
Il n'y a pas un rouble qui est investi par le gouvernement dans les recherches archéologiques en Laponie, qui est considéré comme un territoire protégé déjà. Voilà. Territoire naturel protégé, parc naturel. Il y a une forte opposition de la population. Il y a eu deux expéditions privées dans les années 90 par des archéologues privés à qui on doit ces photos, les mesures.
D'accord. Alors, dans la recherche de ce dossier Orion, il y a un personnage aussi qui va rentrer. C'est un franc-maçon.
C'est un franc-maçon. Alors, il s'appelle Barchenko. Alors, Barchenko, il a plusieurs casquettes. C'est un occultiste. Il est médium. Écrivain, télépathe, chercheur en télépathie, hypnotiseur et franc-maçon.
Alors, on a vu avec Ninel Koulagina la dernière fois que les Russes prenaient très au sérieux ce côté pouvoir faculté psy. Hein.
Donc, faculté psy, l'ésotérisme, l'occultisme, les a toujours fascinés. Et donc, Barchenko va être recruté par Gleb Boki, qui est le responsable des services spéciaux de l'OGPU, l'ancêtre du KGB. et c'est lui qui va lui donner de l'argent pour pouvoir faire ses premières expéditions en Laponie. Mmh. Pourquoi ? Parce que Kleb Boki était également un frère de la loge de la Fraternité du Travail. C'était un franc-maçon aussi.
D'accord. Donc ça, ce sont les francs-maçons qui ont repris le dossier.
Bon, il faut quand même préciser que l'OGPU, la Tchéka, n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Mmh. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris dans les fonds secrets des services secrets pour réaliser les expéditions de Barchenko, expéditions qu'il a fait en Laponie entre 1922 et 1924.
Autre chose aussi, il y a des explorateurs au Tibet qui connaissaient Barchenko.
Alors, il y a des explorateurs, donc il y a le célèbre Rerich, Nikolaï et Dzorjiev, qui étaient des Tibétains, des explorateurs qui sont connus, qui ont été obligés de s'exiler à suite de la révolution, notamment aux États-Unis, et qui publiaient régulièrement leurs écrits dans les revues à Saint-Pétersbourg et qui correspondaient avec Barchenko. Mmh. Et c'est d'ailleurs à travers eux qu'il a été poussé à faire ses recherches sur l'hyperborée en Laponie.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une correspondance poussée entre eux, en fait, c'est ça.
Entre eux, ouais. Voilà. Donc, c'est Nicolas Rerich avait visité la Laponie et avait trouvé dans l'université de Shedsa, au retour d'un séjour en Carélie entre 1917 et 1918, des documents sur une ancienne expédition. L'expédition se nomme Louyavrout, dirigée par l'ornithologue John Palm, en 1897.
D'accord.
Okay. En 1897, il avait déjà dit, attention, j'ai trouvé des choses anormales, il y a des pierres, des constructions, il y a des dolmens, il y a des portes sculptées, enfin il y a des grottes.
En 1897
En 1897. D'accord. Bon là, c'est passé complètement, on dirait à la trappe, en France. Et par contre, le document existe dans une université en Laponie et il a été retrouvé par Christina Lemus.
D'accord. Et alors, on sait que Barchenko va lui aussi, suite à cela, réaliser une expédition.
Alors, il va réaliser une expédition. Alors, pour justifier qu'il sortait des fonds secrets, Boki va le mandater pour une étude concernant les algues en Laponie afin de nourrir les animaux d'élevage. D'accord.
Donc, sous couvert de recherche biologique, par exemple.
Sous couvert de recherche biologique qu'il n'a jamais réalisé.
Ouais.
Et il va partir en Laponie, il part quand même avec sa femme, il part avec deux, trois étudiantes aussi, avec Kundamin, qui est un de ses amis, la femme de Kundamin. Bon, c'est tout un groupe de francs-maçons et de leur famille qui vont partir en Laponie. Il va étudier les chamans sur place, le chamanisme, puisque ça fait partie des cultures ésotériques qui l'intéressent. Et il va découvrir une grotte avec un artefact qui aurait été une tête d'ancien astronaute.
D'accord.
Il va le prendre, comme il le dit, avec ce qui pourrait être un casque.
Mmh.
Donc cet artefact s'est retrouvé dans un musée en Laponie.
D'accord.
Dans les années 20.
Malgré tout, on sait qu'il va découvrir des artefacts, des ruines anciennes, etc. Et il va finir exécuté. Pourquoi finit-il exécuté ? Pourquoi ? Parce qu'il dit des choses, parce qu'il a découvert des choses, parce qu'il doit se taire. Pourquoi ? On l'accuse de quoi ?
Alors, il finit exécuté en 38, pour trahison et franc-maçonnerie.
D'accord.
Alors, pourquoi il y a eu ce revers ? Parce que
on fait la chasse aux sorcières.
La chasse aux sorcières. Donc en 1922, c'est la chasse aux sorcières contre la religion.
Ouais, et les francs-maçons.
Et puis dans la foulée, tout ce qui est associatif, tout ce qui est associatif, les francs-maçons, etc., vont passer à la moulinette parce qu'on estime que ils ont une liberté de pensée qui gêne la liberté pyramidale du soviétisme naissant.
Il y a des trésors qui vont être retrouvés, qui seraient des trésors constitués d'instructions spirituelles, si je ne m'abuse.
Oui. Alors Barchenko est un tibétaniste. Alors, c'est un grand mot, le tibétaniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est intéressé par le Tibet.
Mmh.
Il va habiter d'ailleurs dans un temple tibétain qui existe toujours à Saint-Pétersbourg.
Ouais.
Et il va en parallèle de la loge franc-maçonnique.
Mmh.
Et il reçoit des messages télépathiques, selon lui, selon Barchenko. Et en tant que initié tibétain, selon lui, il s'identifie à un terton. Alors, qu'est-ce qu'un terton ?
C'est quoi un terton ?
Eh bien, le terton, pour les Tibétains, pour les sages tibétains, les maîtres tibétains, c'est un découvreur de trésors. Une personne qui peut découvrir des enseignements ou des objets sacrés cachés et qui peut les déchiffrer
Un chercheur, quoi, en fait.
Oui, qui peut les déchiffrer, alors soit parce que par sa connaissance.
Un chercheur initié, peut-être.
Oui, chercheur initié. Mm. C'est connu, le terme est connu des Dalai Lama. Hein. Et il peut recevoir aussi des informations des grands maîtres par télépathie.
D'accord. Ok. Alors tout cela va amener quand même à une réflexion et peut-être à créer un département. Un département paranormal au sein du KGB, en
fait. Au sein du KGB.
C'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire que le KGB va officialiser le paranormal en créant un département.
Il va officier le paranormal. Et c'est. Bon, le département est créé par Gleb Boki. Alors, ouais. Qui était Gleb Boki? Gleb Boki était chargé de créer des poisons, fabriquer des poisons pour exterminer les ennemis.
Sacré monsieur aussi.
Déchiffrer et créer des codes, mm-hmm. voilà, pour déchiffrer les messages ennemis. Mm-hmm. Et fabriquer également des coffres-forts.
D'accord.
Pourquoi les coffres-forts? C'est pour ranger.
Pour planquer tout. Quoi.
Pour planquer les dossiers, choses dans les administrations, machins, etc. Ouais. Et donc lui, il va ouvrir voie Furkasovski, ouais. bâtiment numéro 1, ouais. un département paranormal. Mm-hmm. C'était le premier département paranormal du KGB.
D'accord.
Donc là-dessus, sur des fonds qu'il va lui-même prélever sans autorisation au sein du KGB, créer un atelier d'alchimie, pourquoi pas.
Hein. Ouais, ouais.
Et puis une salle noire dans laquelle on va faire des séances spirit,
D'accord.
pour communiquer avec l'au-delà. Et puis il va demander à Barchenko qu'il lui fasse des séances d'initiation et de formation sur les officiers du KGB
D'accord.
concernant bah, la franc-maçonnerie, l'ésotérisme, le martinisme, le spiritisme, toutes ces choses-là.
Alors malheureusement pour lui, comme beaucoup, il va finir exécuté.
Alors il va finir exécuté dans la grande période de la Terreur Rouge dans les années 37-38, mmh. En compagnie bah, de tous les trois groupes d'officiers qui ont participé. Donc il y a eu un premier groupe d'une quinzaine d'officiers qui ont participé au cours de Barchenko sur l'ésotérisme. Mmh. Ça n'a pas bien marché, ils n'ont pas accroché. Hein. C'était tellement perché ouais. haut que les gars ils ont déconnecté. Donc D'accord. ensuite il a fait une deuxième séance avec une autre quinzaine. Au total entre 15 et 45 personnes ont été exécutées. Mmh. Tous ceux qui avaient participé au département spécial mmh. ont été éliminés. Donc on peut citer Boki, Goussev, Sibizov, Klemenko, Filipov, Leonov, Gopius, Pochitsov, Kotsritsin, Mironov, Stomoniakov, Mosfin, Sovieski, Barchenko et Blumkin. Enfin, toutes les célébrités, pour nous, ça ne veut rien dire. Hein. Mmh. Et pour les Russes, c'est des célébrités du département spécial.
Voilà, c'était tout le département paranormal, en fait.
Tout le département spécial paranormal a été liquidé pour haute trahison.
Voilà, espionnage, etc., j'imagine.
Espionnage, ouais. franc-maçonnerie, ouais. Voilà. On les a pas brûlés pour sorcellerie, mais bon, pas loin, quoi. Ouais. Voilà, on y était, quoi.
Alors, c'est assez marrant, parce que d'un côté, quand même, c'est le KGB qui, à l'époque, demande à ce qu'on ouvre ce département paranormal, mais en même temps, quelques années plus tard, on les exécute, quoi. Donc,
pourtant, voilà. on les exécute, voilà. Alors que la loge franc-maçonnique de Barchenko a été ouverte parce que le KGB, qui s'appelait à l'époque l'OGPU, lui a donné des fonds. Mmh. Et les membres de l'OGPU faisaient partie de la loge maçonnique.
Ouais, d'accord. Alors, on va revenir sur Barchenko parce qu'il est parti en expédition. Qu'est-ce qu'il va trouver durant celle-ci?
Alors, Barchenko va trouver d'abord les pyramides, les fameuses pyramides
qu'on a vues tout à l'heure
en Laponie. Ouais. Mais il va faire aussi, dans les années 20, une autre expédition en Crimée. Mm-hmm. Et il va découvrir également des pyramides. On sait qu'il y a des pyramides en Crimée grâce à lui.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est tout ce qu'il va trouver.
Et donc puis... ça, c'est en archéologie. Malgré tout, ce n'était pas le sujet qui intéressait le plus le KGB, qui s'appelait à l'époque l'OGPU.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui intéresse le plus au KGB, c'est de savoir si soit ils descendent d'une civilisation nickel, oui. propre, comme tu le disais tout à l'heure, ou soit s'il y avait des anciens astronautes. En voilà. fait, c'est ça. Donc,
ça les a intéressés en disant bon voilà, l'aspect l'homme soviétique ne descend pas du singe, l'homme soviétique descend d'une puissance supérieure. Bon, ça avait du sens pour eux. Mmh. Alors, ils se mettaient sur un piédestal en disant, ben voilà, ils étaient dans un mysticisme complètement exacerbé. Hein, mmh. En disant, ben nous, on descend pas du singe, on descend de quelque chose d'autre. Hein.
Mmh. Alors, il va se passer des choses entre 1923, 1925. Les Tibétains vont être au milieu de tout cela. Ils vont donner des informations et des secrets, hein, c'est ça?
Ils vont donner des informations et des secrets. Alors là, on est en train de parler ouvertement de recherche archéologique, ouais. et puis d'une personne qui était mystique. Le fait d'appartenir à une loge maçonnique n'implique pas que la personne
soit dérangée complètement.
Soit dérangée complètement.
ou pense qu'il y ait d'autres choses.
D'ailleurs, les idées qu'il promouvait étaient plutôt républicaines, ouais. dirons-nous, et pas complètement révolutionnaires. Il y a une personne qui s'appelle Alexandre Gurwitz, qui a durant 50 ans, a demandé au gouvernement d'avoir accès aux archives des dossiers de Barchenko, mmh. qui sont supposées être superficielles, c'est-à-dire dossiers archéologiques.
Oui, qui ne sont pas censés révolutionner l'histoire de la Russie, quoi.
Et jusqu'à présent, on lui a refusé l'intégralité du dossier.
D'accord.
Le peu d'informations qu'on a, les photographies, on les doit à la famille Kondalin, dont le mari a été également exécuté durant les purges en même temps que Barchenko, qui a participé aux deux expéditions.
Alors, il y a des expéditions et on va découvrir on va dynamiter les cavernes pour essayer de voir ce qui se passe, s'il y a rien des choses en dessous. Il y a une vraie expédition.
Il y a une vraie recherche quand même. Donc, il y a Barchenko qui va faire son expédition à lui, subventionné par l'OGPU ou par le KGB.
Ouais.
Et ensuite, il y a une deuxième expédition. Alors, j'allais presque dire, c'est l'expédition des Men in Black.
Oui, c'est ça.
Donc, en 1923, on est à l'été 23, il y a une personne qui s'appelle Arnold Kolbanovsky, qui a été mandaté par le KGB de valider la trouvaille de Barchenko en Laponie, sur les anciens astronautes.
Mm-hmm.
Par contre, lui, partout où il passe, il terrasse. C'est-à-dire, il va trouver la grotte qui a été signalée par Barchenko, il arrive, bon, il dynamite l'entrée. Bon, ça c'est fait.
Mais il dynamite l'entrée, pourquoi ? Pour voir ce qu'il y a en dessous ou pour clôturer l'histoire, en fait ? Pour pas qu'on ait des informations.
Et ben, moi, à mon avis, ils nous l'ont pas dit, mais mon opinion personnelle, c'est quand même qu'il était...
Ils ont trouvé des choses,
ils ne veulent pas qu'on le sache. Donc là, il y a deux versions. Il y a la version sur laquelle on peut se dire qu'il a trouvé des artefacts, notamment la fameuse tête de cosmonaute sculpté dans la pierre qui va disparaître du musée en même temps que monsieur Gourvitz va faire sa visite.
D'accord.
Pas Gourvitz, Kolbanovsky. Kolbanovsky va récupérer l'artefact, il va l'embarquer. Donc on peut dire qu'il efface les traces. Et en même temps, il y a une deuxième possibilité. On sait que sur la zone, on suppose que les Russes ont trouvé de l'uranium.
D'accord.
Donc on se demande aussi si les recherches archéologiques de Barchenko n'étaient pas venues empiéter...
Ouais, c'est ça. Alors, soit cette recherche archéologique, elle cache la forêt, c'est-à-dire la recherche de l'uranium, ou soit cette recherche archéologique a troublé la recherche de l'uranium.
A troublé la recherche de l'uranium, ce qui fait que de toute façon, c'est peut-être pour ça que depuis 50 ans, les Russes disent non, là-bas, il n'y a rien à voir, circuler.
D'accord. Voilà. L'uranium. Alors, qui permet bien sûr de faire des missiles.
C'est pas impossible, parce que juste en face de la Laponie et de ces fameuses pyramides, se trouve Nouvelle Terre, Novaya Zemlya, dans laquelle il y a une base secrète soviétique avec des installations vraiment, vraiment top secrètes. Et avec également un silo.
D'accord. Ouais, une deuxième zone 51.
Une deuxième zone 51, mais qu'elle est plus orientée sur. Il y a des sous-marins atomiques, il y a des choses un peu. Ça tourne autour de l'atome quand même. On sent quand même que dans le secteur, ce ne serait pas impossible qu'ils aient trouvé quand même une source.
Atomique.
Une source de réserve d'uranium.
D'accord. Qui permettrait
dont ils se servent.
Voilà. Alors, les Tibétains vont fournir donc. Des secrets d'une extrême importance, mais rien n'est parvenu à la Russie soviétique, visiblement, c'est ça ?
Alors, on va introduire dans cette émission un autre personnage qui s'appelle Blumkin. Blumkin appartenait au département spécial de l'OGPU, du KGB, est également franc-maçon, il fait partie de leur cercle d'initiés. Alors, pour situer le personnage, c'est pas forcément un intellectuel, c'est l'exécuteur des bases d'œuvres. C'est un assassin, Blumkin. C'est lui qui a assassiné l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou au début de la Révolution.
D'accord, donc c'est un tueur mercenaire, quoi, c'est ça ?
C'est un gentil assassin dont on se sert pour
les bras armés, quoi,
De temps en temps, il a balancé deux, trois collègues par la fenêtre des bâtiments quand les collègues étaient supposés être des traîtres.
Donc,
il économisait des balles.
Gentil monsieur, c'est quoi ?
Donc, c'est pas un tendre. Voilà, on va dire, c'est pas quelqu'un qui est franchement un initié progressiste, républicain, et qui prévoit un avenir radieux pour l'humanité, quoi.
Ouais.
Et donc, l'expédition que n'a pas pu faire Barchenko, c'est Blumkin qui va la faire.
D'accord.
Blumkin, qui appartient au KGB, à l'OGPU. Donc lui, il va avoir des subventions pour la faire. Et il va partir avec une dizaine de personnes au Tibet.
Et le but de l'expédition, c'est quoi ?
Alors, le but de l'expédition...
C'est rechercher quoi ? Les anciennes civilisations, des dieux aussi, des traces d'anciennes civilisations, d'anciens astronautes, de quoi ?
Alors, Blumkin, Barchenko et l'OGPU... dans leur recherche ésotérique, avaient travaillé à la fois dans le temple tibétain, sur les anciennes civilisations tibétaines, et puis sur la partie franc-maçonnique. Et puis, Barchenko a plus ou moins initié le mouvement en disant il faut rechercher Shambhala. Shambhala, c'est l'équivalent d'Hyperborée, c'est l'équivalent de Tulé, c'est l'équivalent de l'Atlantide, mais au Tibet. Et donc, il va aller, Blumkin va aller au Tibet pour trois raisons. La première, la recherche éventuellement de Shambhala, mais il n'est pas trop persuadé de ça. Ensuite, entrer en contact avec le Dalai Lama. Alors, il va se faire passer pour un ambassadeur, qui n'est pas, alors qu'il est agent secret, et il va se faire passer pour un Dalai Lama occidental.
Un sage spirituel. Quoi,
un sage spirituel tibétain. Moi, je viens du temple. Il connaît quelques rituels, quelques chants, etc. Ça passera très bien. Il parle russe, les Tibétains ne parlent pas russe. Donc, comme ça, voilà.
Il embrouille tout le monde.
Il est habillé comme un moine tibétain. Il se fait raser le crâne et il débarque au Tibet. Donc, la première expédition a lieu en 1925. Et la deuxième en 1928.
D'accord.
Donc ensuite, Blumkin est quand même plus intéressant que Barchenko et que Gopi, parce que les deux autres, quand on les a interrogés et qu'on a passé en procès, on les a passés en procès pour haute trahison et franc-maçonnerie. Et donc, les Russes sont très administratifs, ils notent tout. Donc on a retrouvé les minutes. Des procès de ces personnes avec les interrogatoires de ces personnes. Et l'interrogatoire de Blumkin va complètement nous ouvrir une porte sur un monde dont on n'imaginait pas. Donc Blumkin, pourquoi Blumkin s'est retrouvé en procès? Lui, finalement, il est très bien. Il ne fait pas partie comme les autres d'intellectuels. Lui, c'est un assassin. On a besoin d'un assassin dans les années 20, les années 30. Surtout, c'est les années 30, c'est la terreur rouge. Blumkin, il a été arrêté pour une raison très spécifique, c'est que les services secrets tchéquistes ont suivi une Allemande qui s'est rendue dans son appartement à lui pour lui remettre 2 500 000 dollars en échange de quelque chose. Donc là, ils l'ont suivi jusqu'à chez lui. Une fois qu'elle était chez lui, ils ont pénétré l'appartement, ils ont capturé Blumkin, la femme, l'argent. Ils ont interrogé la femme, on se doute avec quelle méthode, c'était pas détendre. Elle leur dit, bah, ils nous ont vendu des informations.
Vous imaginez quand même à l'époque 2 500 000 dollars.
2 500 000 dollars des années 30. Bah, des années 30, c'est colossal.
C'est 20 millions, voire 30 millions aujourd'hui.
Aujourd'hui,
c'est 50 millions.
En espèces.
Ouais, c'est ça.
En espèces, elle arrive avec les valises, pan, et dépose sur la table. C'est quelque chose de colossal.
Bah, les banques étaient moins regardantes. quand tu déposais du liquide.
Et donc, on apprend par Blumkin qu'il a vendu des informations aux Allemands. Il aurait vendu 25 carnets, on ne sait pas de combien de feuilles, mais 25 carnets de notes concernant les expéditions de Barchenko.
D'accord.
Donc,
on est en quelle année, là?
On est en 37, 38.
Quand on est prémices de la Seconde Guerre mondiale.
C'est un an avant, là. Voilà, donc un an avant.
C'est marrant parce qu'ils vont ça aux Allemands. On sait qu'Hitler a été très, très, très intéressé par l'ésotérisme.
Par l'occulte.
Par l'occulte pendant les années entre 39 et 45. Donc, ceci peut-être engendrait cela. Donc, il récupère de l'argent. Et quelles caractéristiques des armes découvertes au Tibet? Parce qu'ils vont découvrir des armes.
Ils vont découvrir des choses. Alors, je vais reformuler. Donc, ils lui ont donné 2 500 000 dollars en échange de carnets. Sur les carnets, il y a des notes. Sur ces notes, il y a les expéditions au Tibet, plus quelques travaux occultes de Barchenko. Et du département de l'OGPU. Mais le plus intéressant, c'est qu'il leur dit bah, c'est une avance et les Allemands sont prêts à investir 500 millions de roubles or de l'époque pour une expédition au Tibet à la recherche d'armes.
D'accord.
Et donc là, les Russes lui disent mais au Tibet, chez les moines, il y a des armes, mais quel type d'armes? Et donc là, on va lire les minutes de son procès, quelques informations qui nous ont. Ils ont bien daigné nous conserver pour la postérité. Et donc, il dit à l'enquêteur, quand j'étais en 1925 en voyage au Tibet, j'ai rencontré le 13e Dalai Lama, Tubtan Huyatso, et il a été emmené dans des salles souterraines par des moines. Et là, on lui a monté des artefacts. On leur aurait dit que les artefacts remontent à 15 ou 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ce seraient des armes conservées dans des pièces séparées. Et il a écrit des rapports manuscrits et dactylographiés dans environ 20 à 25 feuilles chacun. Mmh. Il ne sait pas où se trouve
César.
Ses carnets.
Ses carnets, d'accord.
Ses carnets. Et pour cause, il les a vendus. Mmh. C'est les 2 500 000, il n'aurait pas eu l'argent en espèces comme ça s'il n'avait pas donné les matières avant.
D'accord. Voilà. Donc on ne sait pas où sont ces carnets.
Donc les carnets, les Russes ne les ont pas. À l'instant T, ils ne les ont pas.
Mais on sait qu'il mentionnait des armes venues des exogènes, en tout cas.
Donc il va leur parler d'armes. On est un an ou deux ans avant la Seconde Guerre mondiale. Il va parler d'une pince géante, une espèce de pince ou d'objet pointu qui permet de faire fondre le métal.
D'accord.
Non, on parle d'un laser.
Presque un laser, oui, c'est ça.
Pour nous, c'est un laser. Ouais, on dit, il y a un faisceau de lumière qui arrive.
D'accord.
Bon. Okay. Mais bon, à l'époque, le laser n'existe pas. Ouais. On n'a pas encore inventé. Ensuite, il va parler d'un émetteur de micro-ondes qui, à une certaine fréquence, que l'oreille humaine ne peut pas percevoir, interagit sur le cerveau de l'individu et peut incapaciter une armée, une personne, ou la molester ou la rendre malade.
Donc c'est psychologiquement ou psychiquement influé sur l'ennemi, voilà. Par exemple.
Donc on connaît les travaux maintenant des États-Unis sur les
c'est le mind control qu'on
voilà,
fait.
Voilà, c'est le mind control avec des micro-ondes, ça a été testé par les Américains, mais ça a été testé dans les années 70.
Ouais. Alors là, on est en 1937, quoi, c'est
ça. Là, on est en 37, c'est quand même... Ensuite, il va dire... tout ça, j'ai communiqué à M. von Stille, qui était responsable des services secrets à l'époque. Et ça correspondrait à une utilisation de 8 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a également des sphères, des sphères qui peuvent se déplacer dans les airs, qui peuvent se déplacer dans l'eau, sont des sphères lumineuses.
Voilà, ça nous fait penser inévitablement à toutes les observations d'OVNI qu'on a aujourd'hui.
Voilà, ça nous fait penser aux Foo Fighters,
voilà.
Hein, qu'on a connus à la fin de la guerre, à partir de 1945. Là, on est en 37, ça ne correspond à rien. Une boule de lumière qui se déplace dans les airs et dans les eaux, à l'époque, c'est impensable, ça n'a jamais été utilisé dans la littérature.
D'ailleurs, on se souvient de la bataille de Los Angeles en 1942, où l'armée américaine pense être envahie à nouveau par le Japon, et avec ces boules de lumière sur lesquelles on tire, et il n'y a pas de mort, il n'y a rien.
Enfin, et après on va vous dire que c'est un phénomène naturel, je vais bien le croire. Enfin, le fait est que ça ne s'est jamais reproduit.
Ouais.
Et en dernier recours, il va nous parler d'un artefact, un dernier artefact qui a les caractéristiques d'une soucoupe volante.
D'accord.
Alors là, c'est...
C'est-à-dire qu'il mentionne quoi ? Il mentionne l'objet qui ressemble à une soucoupe volante.
Voilà, en fait, il dit que ça se déplace à très grande vitesse, ça n'a pas la même forme que les avions que nous connaissons, c'est une soucoupe volante, ça peut se déplacer le long d'une trajectoire, s'arrêter net, repartir...
D'accord. C'est quoi ? C'est sphérique ? C'est quoi ?
C'est... Tout à l'heure, on a parlé de la sphère lumineuse. Ouais. Là, c'est plutôt une soucoupe volante.
D'accord.
Okay. Donc, ça, c'est les quatre éléments, les quatre armes dont il nous parle. Mmh. Il faut se remettre dans le contexte. On est à l'appel de la grande terreur. On a exécuté des personnes pour moins que ça. Son argument de défense, c'est ne me tuez pas. Moi, je connais l'existence de ces armes. Je vais vous dire où elles se trouvent. On va aller les chercher. Mmh. On va sauver l'Union soviétique. Après, elle sera invincible.
Mmh. Blonkin, il va être interrogé.
Il va être interrogé.
Et pas forcément gentiment.
Voilà.
Et il va révéler des choses.
Donc il va révéler des choses.
Il va dire qu'il a reçu des informations.
Il va dire qu'il a reçu des informations d'hypertechnologie laissées par des civilisations précédentes à la nôtre, voici des milliers d'années. Ces technologies ne nous ont pas été imaginables au sens habituel. Il y a des machines volantes qui se déplacent silencieusement dans le ciel à grande vitesse et des armes qui peuvent détruire des grandes villes en quelques secondes.
Alors, la vraie question que l'on peut se poser là, c'est que s'il dit que ces engins peuvent se déplacer à grande vitesse, c'est-à-dire qu'il les a vus se déplacer, parce que si tu vois demain une soucoupe volante à l'arrêt, tu ne sais pas si c'est, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y avait eu des expériences, un projet, un prototype ou quelque chose qui existait vraiment, qui a une réalité, tu vois, je veux dire. Donc là, à ce stade,
il ne les aurait pas vus voler.
D'accord.
Ce seraient les moines tibétains qui lui auraient dit.
D'accord, c'est du témoignage. Donc,
c'est du témoignage.
Du témoignage, d'accord. Okay. Autre chose.
Donc, il était prévu, donc, à la suite de ces déclarations, d'abord, on l'exécute, hein. Voilà, on a ces informations. Maintenant qu'on sait où chercher, on n'a plus besoin de lui, donc il est exécuté.
Comme d'hab, allez.
Comme les autres.
Merci pour les bons et loyaux services. Voilà. À bientôt.
Et puis, il y a un commissaire politique qui s'appelle Dekhanozov qui dit, ben voilà, on a des informations. Bon, le gars, on n'est pas sûr de ce qu'il a dit, mais on va quand même aller faire une expédition là-bas.
Ah, d'accord, donc en fait, il y a eu plein d'expéditions.
Voilà. Ils veulent refaire une expédition, et puis aller chercher les moines, et puis les interroger à la façon soviétique. C'est-à-dire, une fois qu'on aura mis la main dessus, les moines...
Ouais.
Hein, on va les interroger.
C'est terminé, c'est ça.
Ils vont nous dire ce qu'il y a là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Malheureusement, on est donc il fait remonter les informations au plus haut sommet du gouvernement pour essayer de trouver une subvention. Et le projet va jusque nommer qui ira, le nombre de voitures qui seront utilisées, l'argent qui sera nécessaire, ouais. etc., etc.
D'accord.
Et puis la guerre éclate.
D'accord.
Donc la guerre éclate.
Donc tout est gelé.
Donc l'expédition ne se fera pas. On va savoir ensuite, à la fin de la guerre, lorsque l'Allemagne sera vaincue, que l'Allemagne a fait des expéditions au Tibet à la suite des informations que Blumkin leur avait vendues.
Ouais.
Mais on ne sait pas trop s'ils ont trouvé les armes en question. Par contre, on sait qu'ils sont allés chercher des origines de civilisation qui les avantageaient plus, eux, que le reste des Européens. Quoi.
D'accord. Alors ça se termine comment tout cela ?
Ça se termine, on va presque terminer par Andropov. Alors Andropov, qui théoriquement était quelqu'un d'assez cartésien, est une personne qui avoue de lui-même avoir vu un ovni. Voilà. Ensuite, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul au point où il y a un programme qui a été ouvert en 1981 par les Soviétiques à l'Institut d'enseignement supérieur et secondaire spécialisé de recherche spatiale. C'est un établissement officiel, parfaitement officiel, qui dépend du ministère de la Défense. Et on va apprendre que jusqu'en 1999, cet institut enseignait la classification d'objets volants non identifiés, les bases d'une communication avec des représentants de civilisations surnaturelles ou extraterrestres, et les règles de sécurité en cas de contact avec des objets ou des organismes vivants d'origine surnaturelle ou exogène.
D'accord.
Okay. Donc on voit quand même que les Russes n'y ont pas forcément cru à 100%, mais ils ont mis des moyens et ils ont préparé des gens chez eux à traiter avec des entités, s'ils existaient, extraterrestres, ou à utiliser le sujet.
Donc, si on résume bien, pour les Russes, il y a eu une civilisation venue d'ailleurs, puisque quand on regarde tout cela, les dieux, en tout cas ce que disent les Tibétains, les arbres, etc., donc eux sont certains qu'il y a, et c'est ce qui est mentionné dans ce dossier, une civilisation hyperborée, ou alors une civilisation venue des étoiles.
Donc, si on peut revoir les photos d'hyperborée en Laponie, on va s'apercevoir qu'au travers du projet Orion, les Russes ont été persuadés à un certain moment, donc on voit une très belle tête d'alien, d'une origine ou d'une présence d'anciens astronautes qui ont été les initiateurs d'une civilisation plus ancienne que la civilisation judéo-chrétienne et égyptienne.
Voilà. D'accord. Donc là,
c'est quand même des photos qui sont intéressantes. On voit qu'il y a des têtes sculptées. Tout à l'heure, on a vu des pyramides, des bâtiments, des constructions.
Donc la pyramide aussi, donc voilà. Donc ça, ce sont toutes les... Alors il y a pas mal de photos, on va les passer les unes après les autres.
Voilà, on voit qu'il y a des portes sculptées, qu'il y a des bâtiments, c'est pas...
Et on voit un peu des escaliers, on voit comme un peu en Égypte quand même, on voit des jointures aussi assez nettes.
Alors ça, voilà. Il y a des découpes qui sont très nettes. Les archéologues qui ont travaillé là-dessus dans les années, fin des années 80, vers 89, ont essayé de dater les constructions. Alors là, on va le prendre quand même avec des pincettes.
On dirait une tête de chien.
Une tête de chien. Ouais. Les pyramides égyptiennes datent de 3500 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. Selon les Russes, leurs pyramides et leur hyperborée dateraient de beaucoup plus.
D'accord. Okay.
Seraient beaucoup plus anciennes. Là, c'est difficile quand même d'avoir une opinion. On ne peut que se référer aux archéologues et aux historiens. Et dans ces domaines-là, leurs paroles...
Après ça, tous ces profils, on a la sensation que c'est sculpté, d'après toi ?
C'est sculpté. Ouais, il y a beaucoup de profils sculptés. Il y a des photos qu'on n'a pas ramenées, mais ce sont des dolmens. Il y a beaucoup de dolmens.
Là aussi, une tête d'alien, quand même, sculptée dans la roche.
Bon, c'est quand même des choses qui interpellent. On se dit... les Lapons, la Laponie, ce sont des éleveurs de rennes. Ce sont des nomades. Ça veut dire que c'est des gens qui vivaient sous la tente. Et ça, depuis plusieurs milliers d'années.
Ouais.
Ce ne sont pas des gens qui avaient des notions de construction, même d'habitation en bois. Donc, retrouver des constructions comme ça chez eux,
Donc, le fin mot de l'histoire pour toi, il y aurait, d'après les Russes, eu une civilisation venue des étoiles, en tout cas.
Des étoiles.
et peut-être même une ancienne civilisation bien plus ancienne que celle que
voilà,
l'on connaît.
Donc la version des Russes, voilà, c'est des anciens astronautes venus de l'espace auraient créé l'Hyperborée, auraient été les initiateurs d'une ancienne civilisation qui aurait été antérieure à la civilisation égyptienne, qui se serait retrouvée en Laponie. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, sur laquelle, on peut émettre des doutes, mais bon, puisqu'ils l'ont noté, on va en prendre acte, c'est l'existence de ces armes exogènes, de soucoupes volantes, de lasers, de micro-ondes, chez les Tibétains. Mmh. Je crois que c'est les premiers et les seuls à avoir dit la chose.
Hein. Mmh. Alors, c'était ce dossier Orion que François Garrigou nous a relaté. Voilà, ce sont des dizaines et des dizaines de pages. Hein, et il y en a quatre comme ça. Hein,
donc, il y en a quatre comme ça. Bon, ça va faire un millier, 16, peut-être 2000 pages.
Plein de documents, plein de. C'est quand même hallucinant parce qu'il y a. Il y a plein de. De
voilà, ils ont parlé de cosmologie. Dessins, de cosmologie voilà. C'est... Ils parlent également de la position. Pourquoi, d'après eux, l'hyperborée aurait disparu? C'est parce que le pôle magnétique aurait changé à une certaine époque. Mm-hmm. Et donc, à la suite de ça, il y a eu une période glaciaire, une modification du climat au nord de l'Europe. C'est-à-dire que le climat, à l'époque, il y a 40 000 ans, au nord de l'Europe, aurait été plus clément que maintenant, parce que l'orientation de la Terre aurait été distincte.
Merci François Garrigou d'avoir été avec nous sur BTLV pour cet inédit. On se retrouvera dans un mois pour de nouvelles aventures. François qui participe activement à la recherche sur ce dossier OVNI, notamment par des biais qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a eu, il n'y a pas longtemps, les OVNI en Espagne, les OVNI en Scandinavie. Là, on a parlé de ce dossier Orion et de la recherche de civilisations anciennes par les Russes ou encore de civilisations exogènes. Merci à tous, salut.